Ici, pas de pitié, pas de casque, même pas de jackstrap. Ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les Mangeux de Pod.
Avec nos deux amis, Bruno Gervais, Mad Max Talbot. Messieurs, qu'est-ce qui se passe là présentement? Bruno, si vous regardez pas l'émission sur YouTube, là, je sais pas pourquoi les gars ont décidé de s'habiller ainsi. Bruno, qui a ses épaulettes, comment ça va?
Oh, Bruno, c'est la première fois que tu lises Internet, il est sur mute.
Non, c'est ma première expérience, t'as raison, Max, je voulais vous épargner, j'étais en train de me préparer. Ben oui, c'est parce qu'on a une grosse game, Steve Richard d'Audacité, qui a sa ligue du vendredi ici à Saint-Hilaire, qui est une ligue extraordinaire en ce qui vient de temps des personnalités, peut-être moins en termes de talent, mais j'en joue une par année, puis c'est aujourd'hui. Sauf que le warm-up finit à 3h20 et 25. C'est à 2 minutes d'ici, là, fait que je suis prêt. Je mets mes patins, mon chandail, mon casque, puis j'embarque. Fait que là, ça va être ma game, fait que je suis prêt. Je vais m'échauffer un peu pendant que Max parle, par exemple, ça vous dérange pas.
Et là, puis... Max, on dirait que t'étais, je sais pas, une paire de lunettes et un cigare près d'être en vacances, toi, là.
Ben moi, j'ai vu Bruno déguisé, je me suis dit, faut que je me mette un accessoire aussi. Fait que je me suis mis un chapeau. Je voulais l'accompagner.
Vous êtes parfait. Ça n'a pas de sens. Les gars, faut vous poser la question. Angie Kopitar a annoncé sa retraite à la fin de la saison, la saison qui va commencer dans quelques jours. C'est une journée triste pour les fans des Kings, pour les fans de Los Angeles aussi, qui perdent deux joueurs en l'espace de quelques mois dans deux équipes différentes, parce que Clayton Kershaw également, le lanceur des Dodgers, a annoncé sa retraite aussi, qui va arriver un petit peu plus tôt qu'Angie Kopitar, vous comprendrez. Messieurs, on compare souvent Kopitar à Patrice Bergeron. Pose la question. Patrice Bergeron ou Kopitar? Bruno.
Patrice Bergeron.
OK. Pourquoi?
Je sais que ça risque de faire des flamèches. Là. Ça a l'air qu'il y a du monde en studio qui se sont cognés la tête solidement quelques reprises, de quelques fois de trop, parce qu'ils pencheraient du côté Kopitar. J'ai bien hâte qu'on puisse jaser de ça. Moi, c'est Patrice Bergeron. T'as le pedigree de ce qu'il a gagné, les matchs qu'il a fait, l'individu qu'il est, le respect que ce joueur-là avait à travers la Ligue nationale pour ce qu'il faisait sur la glace, mais l'individu qu'il était. T'sais, ce qui se rapproche le plus d'un Jean Béliveau, c'est Patrice Bergeron. La triple couronne, la Coupe Stanley, la panoplie trophée Selke qui en est 106. Juste l'impact qu'il avait, qu'il a eu du début à la fin de sa carrière sur une équipe, sur un vestiaire, sur tout ce qu'il touchait, c'est, à mes yeux, c'est Patrice Bergeron.
Are you awake? Max,
Patrice Bergeron. J'ai la chance de jouer avec Patrice, fait que c'est certain que je me demande Patrice puis Wayne Gretzky, je vais dire Patrice. Pour tout ce que Bruno a dit, c'est un Québécois, on est fiers de lui. Puis c'est certain qu'à un moment donné, on analyse. Là. Fait qu'il faut être aussi pas juste émotif envers ce qu'on va dire. Mais moi, j'ai trouvé que d'avoir joué avec lui. T'sais, nominé 11 fois là, pour le trophée Selke, là, c'est. Bruno, tu me déconcentres. Pour ceux qui sont en voiture, Bruno, t'es en train de faire des étirements. Là.
Puis... Mais vas-y, Max, je t'écoute, par exemple.
Donc, d'avoir joué avec lui et de voir la grandeur de ce qu'il est dans le vestiaire, nominé 11 fois pour le Selke, là, faut-tu que tu sois incroyable. Il faisait tout de bien. Là. Tu regardes, il a gagné le trophée Selke à ses deux dernières saisons. Là. C'était un leader, un gars qui travaillait fort, puis tu sais, oui, je crois que Kopitar a peut-être un petit peu plus de offense en lui, mais je regardais les Corsi, là, puis c'est même pas serré, là. Patrice Bergeron, quand il était sur la glace, c'est 58.3 possession de rondelles, sa métrique, puis Kopitar, c'est 54%. C'est quand même vrai, mais pour avoir 58%, là, je crois que le point de... Je pense que c'est Ben Roger là, qui va choisir Kopitar, là, je veux pas casser le scoop, là, mais... Je comprends son point parce que je pense que Bergeron a été mieux épaulé par les joueurs avec lesquels il a joué que Kopitar. Puis que si Kopitar avait joué peut-être dans une équipe canadienne ou une équipe plus dans la conférence de l'Est, on l'aurait plus vu. Si Kopitar avait été Canadien, Américain, il aurait peut-être gagné les Olympiques aussi. Il n'a pas eu cette chance-là. Tout ce qu'il a fait pour l'État de la Californie en jouant avec les Kings, c'est quand même extraordinaire, là. Je regardais les statistiques puis je le comparais. Tu le vois dans chacune des colonnes en haut. C'est assez extraordinaire, mais pour ce que Bergeron a été comme joueur pour l'histoire des Bruins, je vais aller avec Patrice aussi.
C'est moi, Max, qui prends Kopitar à la surprise d'absolument personne qui nous écoute parce que je suis un fan des Kings depuis que je suis tout petit. Et Andrzej Kopitar, moi, je l'ai vu arriver dans la Ligue nationale avec mon équipe, puis il a souvent eu ce débat-là à Montréal. Est-ce qu'on aurait dû repêcher, par exemple, Kopitar au lieu de Price? Souvent, on a parlé de ça. Et j'aime tellement ça, l'argument que tu as amené, parce que là, il va avoir sa retraite qui s'en vient. Mais il vient de la Slovénie et je pense que ça a été le premier joueur slovène d'arriver dans la Ligue nationale. Si ce gars-là était québécois ou canadien, là, on l'élèverait, il y aurait des statues de lui partout. Regarde sa carrière, 1454 matchs, 1278 points. Ça, il n'a même pas joué sa dernière saison. Il a déjà 238 points de plus que Patrice Bergeron. Oui, défensivement, Patrice Bergeron est meilleur et c'est un joueur que j'adore. Max, t'étais dans un vestiaire avec lui. Je commencerai pas à m'obstiner sur la personne que Patrice Bergeron est. Puis en même
Plus 289, Patrice Bergeron avec les Bruins. C'est extraordinaire, mais je comprends
dans
ton
des
point.
meilleures équipes, dans des meilleures équipes aussi, là.
Suis d'accord.
Mais ce que je veux dire là-dedans, puis mon point est, il
Mais.
n'y a pas de mauvaise réponse là-dedans. Les gars, Bruno, je te laisse réagir. Je trouve que, et je pense que je peux affirmer que Andrzej Kopitar est probablement l'un des joueurs les plus sous-estimés de sa génération parce qu'il joue à LA. Ça, c'est loin d'ici. Et deuxièmement, parce qu'il est slovène. Il n'est pas canadien, il n'est pas américain, comme tu l'as dit, Max. Puis il joue dans l'Ouest. C'est
Pas
tout un joueur
slovénien,
d'hockey.
c'est pas slovénien,
Slovénien?
mais
Slovène?
non, je
Slovène?
ne sais pas, je n'y mais tu sais que tu parles d'Andrzej Kopitar, ça me fait penser un peu à Bruno aussi, là. Bruno aussi, c'est un joueur extrêmement sous-estimé.
Bon, je pensais que tu allais annoncer à tout le monde que j'étais slovène. Le monde ne le savent pas.
Non, il y a juste nous autres qui le savons ici en studio.
C'est mon secret bien gardé, mais oui, j'ai mon passeport slovène.
Tu voulais réagir sur ce que je disais, Bruno?
Oui, parce que, tu sais, puis c'est parce que c'est une longue carrière, là, OK? Andrzej Kopitar, c'est 20 ans. Oui, tu as parlé des points à différence. Tu fais la règle de 3, tu sais, Patrice Bergeron est à peu près à 100 points en dessous de Kopitar. Fait que oui, l'élément offensif, il y a peut-être une petite coche, tu sais, 100 points sur 20 ans, sur 20 saisons, c'est pas énorme. Mais combien de fois, moi, je me rappelle, il y a combien de fois qu'on plaçait les Bruins de Boston beaucoup plus bas qu'il devait l'être. Puis là, tu me dis, ouais, dans des meilleures équipes, dans des meilleures équipes. Pourquoi c'était des meilleures équipes? Parce que sur papier, ça ne l'était pas. Quand la saison allait commencer, tu les mettais en dehors des séries. Il y a bien des fois, on les mettait en dehors des séries. L'année qu'ils ont gagné le Motadi Hero Trophée président, puis pour finir premier, il y a bien du monde qui est placé en dehors des séries. Pourquoi c'était une si bonne équipe? Parce que reviens dans les formations, là, c'est tous des gars qui ont overachievé à Boston. C'est tous des gars, puis c'était pas. Oui, il y a Pastrnak qui est arrivé par après, tu as eu un Brad Marchand, mais c'était tout, voyons, c'était collectivement que ça fonctionnait parce que c'était pas les vedettes après vedettes après vedettes dans l'era de Patrice Bergeron. Puis un peu à l'image de Carey Price avec le Canadien, eux autres, ils ne pouvaient pas repêcher haut parce que ce noyau-là trouvait tout le temps une façon de performer. Fait que quand on dit, tu sais, le meilleur joueur, c'est sûr qu'on y va avec les points, mais tu sais, Patrice Bergeron a été 4 fois champion des mises en jeu dans la Ligue. Puis il en prenait une tonne, puis une barouette de ces mises en jeu-là. Son impact sur le match est exceptionnel, d'où le respect. Puis tu regardes jouer encore aujourd'hui n'importe quel jeune joueur de centre qui veut apprendre à comment jouer de la bonne façon, regarde les cassettes de Patrice Bergeron quand il jouait avec les Bruins de Boston. C'est la façon de jouer, son impact vis-à-vis, demande à n'importe quel entraîneur, demande à n'importe quel joueur qui jouait avec ou contre. C'est le leader ultime, c'est l'exemple ultime. Mais c'est vrai que c'est une super belle histoire. Là, on parle de deux joueurs extraordinaires. Mais à mes yeux, c'est le numéro 37 qui passe tout juste en avant de M. Kopitar.
Ce qui est dommage, les gars, aussi, c'est que Patrice Bergeron a participé à 3 finales de la Coupe Stanley. Il en a remporté une seule en 2011. Mais les 2 premières finales de la Coupe Stanley qu'il a fait, 2011 et 2013, elles ont chevauché celle où Enzi Kopitar a remporté la Coupe Stanley. Ça aurait 2012-14, été magique que ces deux gars-là s'affrontent en grande finale de la Coupe Stanley.
Mais pour ajouter à ce que Bruno vient de dire et ce que tu dis, là, Bruno, on peut faire un copier-coller des équipes des Kings quand ils ont remporté les grands honneurs aussi. Là. C'était pas des gros clubs à ce moment-là qu'on pensait qu'ils allaient tout casser. Je pense que la première coupe en 2012, ils sont qualifiés 8e en séries éliminatoires. C'est-tu en 2012 ou 2014 qu'on tirait 0-3 de l'arrière contre les puissants Sharks de San Jose? Ça fait longtemps, ça, pour dire les puissants Sharks de San Jose. Et qui sont revenus en 7 pour l'emporter. C'était vraiment des underdogs à ce moment-là qui sont allés chercher la coupe 2 fois. Mais quand je dis des meilleures formations, c'est justement quand Pasternak est arrivé, Chara est encore là, à la longueur du temps, justement, de la carrière au complet, les Bruins ont été beaucoup plus constants que les Kings en soi, qui ont connu des passages à vide incroyables. Donc c'était ça mon argument, mais comme tu l'as dit, il n'y a pas de mauvais choix entre ces deux-là. Ce sont deux joueurs exceptionnels qui font partie des meilleurs de cette génération-là. Messieurs.
Ouais. Vas-y, vas-y.
Non, mais moi, je faisais juste lever mon chapeau à Bruno. Juste.
Chose qu'on fait pas assez. On lève nos épaulettes puis notre chapeau à Bruno. Merci, Bruno. Les gars, pour vous, est-ce que c'est primordial que le capitaine du Canadien parle français, comme Nick Suzuki vient de nous démontrer dans une entrevue à Félix Séguin? Max.
Moi, je sais pas si c'est primordial, mais j'adore ça. Et c'est drôle, j'avais mon podcast cette semaine, puis on en parlait avec David Savard, entre la poire et le fromage, avec Louis, puis on en parlait avec David Savard, justement. Et c'est devenu un sujet chaud lors de l'entrevue. Puis, je trouve ça important, moi, puis je trouve ça... Tu sais, un gars qui a un contrat à long terme, comme Nick Suzuki, qui est là, puis qui va être capitaine pour plusieurs années, c'est sa 4e année cette saison. Tu sais... Je trouve ça beau. Je trouve ça très beau. Puis je me demande pourquoi il n'y a pas plus de joueurs, pas juste le capitaine, tous les joueurs qui ont des contrats long terme, qui savent qu'ils vont rester, un Slavkovski, un Caulfield, un Hudson. Ben, prenez le temps de le faire. Je trouve ça le fun. Et David donnait un petit peu l'excuse d'une certaine façon. Il dit, mais tu te fais servir en anglais à Montréal maintenant. Tu t'en vas à un dépanneur, tu t'en vas à un café. Les gens vont te parler, vont t'approcher quasiment en anglais. Les joueurs vivent tous dans l'ouest de l'île. Là. Mais quand même de faire l'effort de l'apprendre, que ce soit dans quand tu voyages, une application Duolingo, je trouve ça beau, je trouve ça fort. Je dis pas que c'est nécessaire, parce qu'à la fin de la journée, là, tu veux ton meilleur leader dans la chambre. Là. Tu veux pas avoir à choisir un Québécois parce qu'il s'adresse en français, puis que tu veux ton meilleur leader dans le vestiaire qui parle seulement anglais, c'est correct aussi. Ça amène la question, est-ce qu'un coach doit absolument parler français aussi? Tu sais, mettons, Babcock était le meilleur coach de la Ligue nationale, s'il avait été disponible, on l'aurait-tu engagé pour aider l'équipe, même s'il ne parle pas français? Moi, je pense qu'on doit avoir un coach qui est capable de communiquer dans les deux langues. Un capitaine, c'est plus compliqué, mais tu sais, je regardais la liste des capitaines des Canadiens, là, le dernier qui parlait français, c'était dans Fouss, en 98-99, ça fait quand même plusieurs années. Donc, bravo vraiment du fond du cœur à Nick Suzuki de faire l'effort de pouvoir répondre, parce que les gens se disent c'est facile, c'est pas facile quand même d'être confortable à répondre à des questions en français. Puis il y a une différence en dire bonjour, je suis Nick Suzuki quand tu remercies les fans, puis de donner une entrevue, c'est vraiment une chose différente. Donc bravo à Nick Suzuki, mais je pense pas que c'est nécessaire, mais quand tu as un contrat longtemps, tu vas être là longtemps. J'adore ce que Nick a fait aujourd'hui.
Bruno?
Ben, c'est pour, à mes yeux, là, que c'est sur les termes. Là, c'est pas primordial. C'est tu veux la meilleure personne possible. Puis dans un vestiaire hockey, tu peux reculer jusque dans la LHJMQ. Ça se passe en anglais. C'est inclusif. C'est le langage commun pour tout le monde. C'est le plus facile. Tout va se passer en anglais. Mais je trouve que Nick Suzuki vient de lever la barre. Il vient de lever les standards. De la façon d'agir, de l'implication, de tout ce que ça va être le lien entre l'équipe et les partisans. Dans cette, tu sais, il a passé à travers des années moins faciles. le soutien qu'il y a eu. Puis, tu sais, t'as un mélange de signes de respect, puis bravo, tu sais, à la curiosité, puis au désir de Nick Suzuki de vouloir apprendre, puis de mettre ça important. Ça, je trouve que ça lève la barre pour tous les autres coéquipiers, pour tous les autres gars qui sont là, pour l'organisation en entier. Fait que bravo à Nick Suzuki là-dessus. Ceci étant dit, j'espère qu'on s'attend pas à ce qu'il réponde à des entrevues en français tout le temps. Parce que c'est là que ça devient délicat. De le faire dans un cadre, tu sais, c'était avec Félix, c'était bien relax, il jase, puis tu sais, c'est assez mellow comme entrevue, ça c'est super. Après un match, dans le feu de l'action, il est arrivé quelque chose, de vouloir commenter, c'est là que, tu sais, avant d'être vraiment à l'aise avec la langue, puis de choisir les bons mots, parce qu'il faut que tu sois délicat dans les mots que tu choisis dans une entrevue, surtout dans un marché comme Montréal, je pense que là, tu es mieux de rester dans ta langue avec laquelle tu es le plus à l'aise.
Oui, c'est vrai. On ne doit pas ajouter de pression puis dire « Ah, oh, Nick Suzuki l'a fait une fois, fait que maintenant, c'est le standard, il faut qu'il nous parle en français. » Non. De là à en parler, admettons, il commence à parler français à la maison avec sa femme, qui en parle avec ses amis, même dans le vestiaire avec des joueurs francophones du Canadien, des joueurs québécois, bien correct. Si lui, il se sent assez à l'aise pour répondre à certaines questions en français parce que il les comprend puis qu'il s'en laisse de le faire. Mais on en parlait tantôt en ouverture de rideau, messieurs. Pas facile à faire. Là. Quand t'as un micro dans le visage puis une caméra après un match ou est-ce que t'as ton match dans la tête puis tout le reste, là, vous l'avez vécu, c'est pas dans le même contexte qu'il a fait avec Félix Séguin. Là. Max l'a bien dit.
Non, exactement. Ça lève la barre, mais tu peux pas, après une game, quand t'es émotif, réagir de la même façon. Là, Sidney Crosby parlant en français, il a appris junior à Rimouski et tu demanderais de faire une entrevue complète. Il n'est pas complètement à l'aise. Il va être capable de le faire. Son français est assez bon. Mais quand même, si tu veux, il y a beaucoup de nuances dans le langage. Puis j'ai l'expérience contraire où j'ai été joué en Russie pendant 3 ans. Puis, tu sais, j'ai appris parce que ça communiquait beaucoup en russe là-bas. Mais j'étais immergé de la culture aussi. Là-bas, si tu ne parles pas en russe, il n'y a pas beaucoup d'anglais quand même là-bas. Donc, j'avais pas le choix de faire les efforts nécessaires pour communiquer puis vivre dans la ville. Mais à Montréal, c'est différent. Les gars, ils peuvent juste parler anglais. Ils n'ont pas le besoin nécessaire de s'imprégner de la culture. Donc, de faire les efforts pour lui, c'est super. Mais de faire une entrevue après match pour vraiment faire un point avec émotion, ça va être difficile. Je pense pas qu'on va pouvoir lui demander de le faire chaque match.
Messieurs, on a des questions à vous poser sur Juraj Slafkovský, sur les paires de défense. Est-ce que Mike Madison est le bon partenaire pour Noah Dobson? Dobson, ça me pensait que oui, mais on veut l'avis de Max Talbot, Bruno Gervais, nos deux gars pour qui l'Halloween est arrivé avant le temps.
Ici, ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les Mangeux de Puck.
Avec Bruno Gervais, Max Talbot, à qui on va demander quelque chose de très spécifique pour les prochaines semaines. S'il vous plaît, les gars, ne changez jamais. Vous êtes parfaits.
Merci. C'est réciproque.
Selon vous, les gars, on en a beaucoup parlé. Martin Saint-Louis nous a parlé de la meilleure version de Patrick Laine qui pourrait arriver cette saison. Et Patrick Laine, hier, est revenu sur le sujet en disant « Non, non, pas peut-être. Ce sera la meilleure version de moi-même qu'on verra. » La seule question qu'on n'a pas eu de réponse, puis c'est pour ça qu'on vous demande, c'est quoi la meilleure version de Patrick Laine? Bruno.
Bien, c'est certain que c'est un marqueur de but. Puis, la meilleure version de Patrick Laine, c'est un gars qui va être en santé, qui va jouer la majorité des matchs. C'est un gars qui... T'sais, il a parlé qu'il avait retrouvé ses jambes. C'est sûr, en revenant d'une blessure au genou l'année dernière, peut-être c'est quelque chose qu'il sentait qui lui manquait. J'ai pas besoin qu'il mette des gars dans la troisième rangée. Mais à 5 contre 5, tu peux pas être un maillon faible comme on l'a vu à certains moments l'année dernière. Fait que juste lever ce jeu-là par les prises de décision, par l'effort sur le repli défensif, par l'effort même sur l'échec avant, venir fermer l'espace, utiliser un peu sa vitesse, utiliser son gabarit quand c'est le temps, ça va être important. De marquer des buts, ça, il est capable de le faire. Il l'a montré l'année dernière. Ses occasions vont venir. Mais donne pas des raisons à l'entraîneur de te faire sauter quelques présences à cause de situations du match, que tu mènes par un but, que l'adversaire met son meilleur trio sur la glace. Tu sais, bâtis cette confiance-là avec l'entraîneur parce que tu prends les bonnes décisions, parce que tu gagnes des batailles à un contre un, parce que tu fais le travail qui requiert pas de talent. Amène ça à un autre niveau. Lève la barre de tout ce qui entoure. J'ai aucun doute pour ses occasions et les buts qu'il va être capable de marquer. Mais d'être capable d'avoir un impact à 5 contre 5. Fait, c'est un gars que, oui, il va en marquer, exemple, la saison là, parfaite pour moi. J'ai pas besoin d'en score 45. Mais s'il en score 35, puis que tu en as une bonne batch de ceux-là qui sont à 5 contre 5, puis que son jeu à 5 contre 5 fait qu'il passe moins de temps dans sa zone, mais plus de temps en territoire adverse à être menaçant, à changer le rythme d'un match quand ça va pas bien, que son trio, un bon trio, une bonne présence en tempête en territoire adverse, c'est ça qui va faire que c'est une bonne saison parce qu'il est prêt physiquement puis qu'il est engagé.
J'aime ça, mais tu parlais de donner des coups d'épaule puis d'en envoyer dans la troisième rangée. Là. Il est capable. Il a des, on me souviens très, très bien. Il l'a, en début de carrière, il le faisait beaucoup plus. Mais même la saison dernière avec les Canadiens, il l'a fait aussi. C'est pas son rôle, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais il est capable, une fois de temps en temps, de donner un solide coup d'épaule. Max.
Ben, c'est de la constance. Hein? Ben, es-tu capable de faire ça 82 matchs? On espère tous que oui, pour le bien de l'équipe. Mais moi, c'est, tu sais, je coach au hockey mineur, Bruno, puis moi, je pense qu'on a les mêmes deux mots quand on pense à un joueur de hockey. Tout ce que tu peux contrôler, là, puis je parle aux jeunes qui nous écoutent à la radio, là, c'est ton attitude puis ton effort. C'est les deux seules choses que tu peux contrôler. Puis dans le cas de Patrick Laine, c'est ça aussi que je veux voir. Tu sais, son effort, il va la contrôler chaque soir. C'est, ça vient pas avec, là. C'est mis en échec, là, on peut s'attendre. C'est capable d'en faire une à chaque 2-3 games. Le Sandbell va se lever, c'est super. Mais juste d'avoir un effort constant que, tu sais, t'en donnes plus que tu t'en fais scorer. Ça, c'est une chose. Puis deux, moi, quand je pense à Patrick Laine, je pense beaucoup à attitude. Tu sais, il est resté ici cet été. Je pense que, tu sais, on le voit beaucoup dans les médias. Il est flamboyant. C'est correct. Habille-toi comme tu veux. Fais, aie ta personnalité. Mais je veux que ça soit un leader positif ou du moins pas une distraction. Puis c'est ça qui va être touché un petit peu cette année. On essaie de faire l'avantage numérique du Canadien, Bruno et moi. Puis présentement, je ne sais pas si c'est Lou Caulfield qui va être là pour lancer sur le lancer de réception à son spot. Tu sais, s'il n'est pas là, si ça arrive qu'il n'est pas là parce qu'il est plus froid un petit peu offensivement, ben il va-tu bougonner sur le banc? Il va-tu créer une distraction? Il va-tu, il a une grosse personnalité, Patrick Laine? Donc, tu sais, je te demande pas d'être le meilleur leader sur la terre, mais sois pas une distraction négative pour l'équipe qui a tellement un beau noyau de jeunes. Bruno, il a dit 35 buts. Moi, si en score 30, je suis très heureux. Mais faut pas que tu sois moins 12, moins 15. Là. Fait que c'est là que Martin Saint-Louis a bien joué ses cartes. Je pense que c'est le coach parfait pour être capable de motiver un Patrick Laine. Mes attentes, personnellement, ne sont pas ici. T'sais, si on veut que le Canadien gagne la Coupe Stanley, est-ce que ça passe par lui? Est-ce qu'il va être dans l'équipe? Parce que je le sais pas. Mais cette année, on est encore en développement. Oui, on vise des séries, on n'est pas arrivé encore, mais on s'en va dans la bonne direction à 100%. Je suis convaincu, puis c'est excitant tout ça. Est-ce qu'il peut faire partie de ça? Ou au moins, du moins, quand tu es là, ben, essaie d'aider la manière que tu peux. Donc, je lui souhaite. Puis, j'ai aimé sa confiance dans sa réponse. T'sais, je regardais cet après-midi justement le clip qui en parle, puis il dit « Oui, vous allez voir la meilleure version de moi. » Ça, pour moi, c'est excitant, c'est du vouloir, puis de vouloir bien faire, puis faire partie de ça, c'est déjà un bon départ.
Les gars, ça a été beaucoup trop court, merci beaucoup. À vendredi prochain, passez un très beau week-end. De toute façon, il faut laisser aller Bruno, parce qu'il va commencer son match de hockey dans à peu près une minute et demie. Messieurs, bon vendredi encore une fois, bon week-end, puis à la semaine prochaine.
Salut les gars.
Bye la gang, bon week-end.
Salut les boys. Sont-tu parfaits? Ça n'a pas d'allure. Avec le chapeau et les épaulettes.
Quelle face de clown, ce Max Talbot.
Ah, maison.
Surtout avec son chapeau de paille, là.
Il est parfait. T'as dit, il est excellent.
Tu veux aller prendre un verre avec ce gars-là, c'est sûr.